Le cas de Jean-Louis. Cela se passa comme le plus banal des faits divers, et avec une rapidité telle qu'Hortense en demeura confondue. Comme ils traversaient tous deux la Seine en se promenant, une silhouette de femme avait franchi le parapet du pont et s'était précipitée dans le vide. De tous côtés, des cris, des clameurs. Et puis, soudain, Hortense avait empoigné le bras de Rénine. « Quoi ? Vous n'allez pas vous jeter ? Je vous défends !» La veste de son compagnon lui restait dans les mains. Rénine sautait d'un bond, et puis elle n'avait plus rien vu. 3 minutes plus tard, entraînée par le flot des gens qui couraient, elle se trouvait au bord même du fleuve. Rénine montait les marches de l'escalier, portant une jeune femme dont les cheveux noirs se collaient autour d'une face livide.
Elle n'est pas morte. Vite, chez le pharmacien. Des tractions de langue. Aucun danger à craindre.
Il remettait la jeune femme à 2 agents, écartait les badauds et les soi-disant journalistes qui lui demandaient son nom, et poussait dans un taxi Hortense toute secouée d'émotion.
Ouf ! Encore une baignade. Que voulez-vous, cher ami ? C'est plus fort que moi. Quand je vois un de mes semblables qui plonge, il faut que je plonge. Nul doute, j'ai parmi mes ancêtres un Terre-Neuve.
Il rentra chez lui et se déshabilla. Hortense l'attendait dans l'auto. Il ordonna au chauffeur
« Rue de Tilsit. Où allons-nous ?
Prendre des nouvelles de la jeune personne.
Vous avez son adresse ?
Oui, j'ai eu le temps de la lire sur son bracelet, ainsi que son nom. Geneviève Aymard.
Alors j'y vais.
Oh, pas pour recevoir la récompense due aux Terre-Neuve.
Non, simple curiosité. Curiosité absurde d'ailleurs. J'ai sauvé 12 de jeunes noyés. Toujours le même motif. Chagrin d'amour, et chaque fois l'amour le plus vulgaire. Vous allez voir ça, cher ami.
Lorsqu'ils arrivèrent dans la maison de la rue de Tilsit, le docteur sortait de l'appartement où Mademoiselle Aymard demeurait avec son père. La jeune fille, leur dit le domestique, se portait aussi bien que possible et dormait. Rénine se présenta comme le sauveur de Geneviève Aymard et fit passer sa carte au père, qui accourut les mains tendues et les larmes aux yeux. C'était un homme âgé, faible d'aspect, et qui, tout de suite, sans attendre qu'on l'interrogeât, se mit à parler d'un ton de détresse impitoyable.
Oh, c'est la seconde fois, monsieur. La semaine dernière, elle a voulu s'empoisonner, oh, la malheureuse enfant. Moi qui donnerai mon sang pour elle. Je ne veux plus vivre, je ne veux plus vivre. Voilà tout ce qu'elle trouve à répondre. Oh, j'ai très peur qu'elle recommence. Oh, quelle horreur. Se tuer, elle, ma pauvre Geneviève. Et pourquoi, mon Dieu ?
Oui, pourquoi ? Un mariage rompu, sans doute ?
Un mariage rompu, en effet. La chère enfant est tellement sensible.
Rénine l'interrompit. Du moment que le bonhomme s'engageait dans la voie des confidences, il ne fallait pas perdre son temps en paroles inutiles. Et nettement, avec toute son autorité, il exigea
« Procédons avec méthode, monsieur, voulez-vous ? Mademoiselle Geneviève était fiancée ?»
Monsieur Aymard ne se déroba point et répondit
« Oui. »
« Depuis quand ?»«
Depuis le printemps. Nous avons connu Jean-Louis d'Ormival à Nice, où nous passions les vacances de Pâques. Dès notre retour à Paris, ce jeune homme, qui habite ordinairement la campagne, avec sa mère et avec sa tante, vint s'installer dans notre quartier, et les deux fiancés se virent chaque jour. Pour ma part, je vous l'avoue, Jean-Louis Vaubois ne m'était pas très sympathique.
Pardon, vous l'appeliez tout à l'heure Jean-Louis d'Ormival.
C'est également son nom.
Il en a donc 2 ?
Je ne sais pas. Il y a là une énigme.
Sous quel nom s'est-il présenté à vous ?
Jean-Louis d'Ormival.
Mais Jean-Louis Vaubois ?
C'est ainsi qu'il fut présenté à ma fille par un monsieur qui le connaissait. Vaubois ou d'Ormival, d'ailleurs, n'importe. Ma fille l'adorait. Il semblait l'aimer passionnément. Cet été, au bord de la mer, il ne la quitta pas. Et puis, voilà que le mois dernier, alors que Jean-Louis était retourné chez lui pour s'entendre avec sa mère et sa tante, voilà que ma fille reçut cette lettre. Geneviève, trop d'obstacles, s'oppose à notre bonheur. J'y renonce avec un désespoir fou. Je vous aime plus que jamais. Adieu, pardonnez-moi. Quelques jours plus tard, ma fille tentait une première fois de se suicider.
Mais pourquoi cette rupture? Un autre amour? Une ancienne liaison?
Oh non, monsieur, je ne crois pas. Mais il y a dans la vie de Jean-Louis, c'est la conviction profonde de Geneviève, un mystère, ou plutôt une série de mystères qui l'entravent et le persécutent. Son visage est le plus tourmenté que j'ai jamais vu. Et dès la première heure, j'ai senti en lui un chagrin et une tristesse qui ont toujours persisté, même au moment où il s'abandonnait à son amour avec le plus de confiance.
Votre impression, néanmoins, a été confirmée par de petits détails, par des choses dont l'anomalie précisément vous a frappé. Ainsi, ce double nom, vous ne l'avez pas questionné à ce propos?
Si, deux fois. La première, il m'a répondu que c'était sa tante qui s'appelait Vaubois et sa mère Dormival.
Et la seconde?
Le contraire. Il a parlé de sa mère Vaubois et de sa tante Dormival. Je le lui ai fait remarquer. Il a rougi. Je n'ai pas insisté.
Il demeure loin de Paris?
Au fond de la Bretagne. Le manoir d'Elseven, à 8 kilomètres de Carhaix.
Rénine médita durant quelques minutes. Puis, se décidant, il dit au vieillard « Je ne veux pas déranger mademoiselle Geneviève, mais répétez-lui exactement ceci. Geneviève, le monsieur qui t'a sauvé s'engage sur l'honneur à te ramener ton fiancé d'ici 3 jours. Écris à Jean-Louis un mot que ce monsieur lui remettra. » Le vieillard semblait stupéfait. Il balbutia
« Vous pourriez? Ma pauvre fille échapperait à la mort. Elle serait heureuse. »
Et il ajouta, d'une voix à peine perceptible et avec une attitude où il y avait comme de la honte
« Oh, monsieur, faites vite, car la conduite de ma fille me laisse supposer qu'elle a oublié tous ses devoirs. Et qu'elle ne veut pas survivre à un déshonneur qui bientôt serait public. »
Silence, monsieur. Il est des paroles qu'on ne doit pas prononcer. Le soir même, Rénine prenait avec Hortense le train de Bretagne. À 10h du matin, ils arrivaient à Carhaix, et à 12h30, après avoir déjeuné, ils montaient dans une automobile empruntée à un notable de l'endroit. « Vous êtes un peu pâle, cher ami, » dit Rénine en riant lorsqu'ils descendirent devant le jardin d'Elseven. « J'avoue que cette histoire m'émeut beaucoup. Une jeune fille qui deux fois affronte la mort, quel courage il lui faut. Alors j'ai peur. »
« Peur de quoi ?»«
Que vous ne puissiez réussir. Vous n'êtes pas inquiet ?»«
Cher ami, je vous étonnerais sans doute infiniment si je disais que j'éprouve plutôt une certaine gaieté. »«
Pourquoi donc ?»«
Je ne sais pas. L'histoire qui vous émeut, à juste titre, me semble à moi contenir un certain fond comique. Dormival, Vaubois... Cela vous a un parfum vieillot et un peu moisi. Croyez-moi, cher ami, et reprenez votre sang-froid. Vous venez ?
Il passa la barrière centrale. Elle était flanquée de 2 portillons marqués l'un au nom de Madame Dormival, l'autre à celui de Madame Vaubois. Chacun de ces portillons ouvrait sur des sentiers qui, parmi des massifs d'aucuba et de buis, s'en allait à droite et à gauche de la principale avenue. Celui-ci conduisait à un vieux manoir, long et bas, pittoresque, mais pourvu de 2 ailes disgracieuses, lourdes, différentes l'une de l'autre, sur le côté desquelles aboutissaient chacun des sentiers latéraux. À gauche demeurait évidemment Madame Dormival, à droite, Madame Vaubois. Un bruit de voix arrêta Hortense et Rénine. Ils écoutèrent. C'étaient des voix aiguës et précipitées qui se querellaient, et tout cela jaillissait par une des fenêtres du rez-de-chaussée, lequel était de plain pied et vêtu tout son long de vignes rouges et de roses blanches.
« Nous ne pouvons plus avancer, c'est indiscret !»«
Raison de plus, l'indiscrétion en ce cas est un devoir, puisque nous venons pour nous renseigner. Tenez, en marchant tout droit, nous ne serons pas aperçus des gens qui se disputent. »
De fait, le bruit de la querelle ne se calma point, et lorsqu'ils arrivèrent près de la fenêtre ouverte qui était voisine de la porte d'entrée, il leur suffit de regarder et d'écouter pour voir et entendre, à travers les roses et les feuilles, deux vieilles dames qui criaient à tue-tête et se menaçaient du poing.